Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Priant Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse cette divine consolation pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, donc nous sommes toujours dans l'étude de la Tertia Pars, question 6, donc sur le traité du Verbe incarné. Je m'excuse pour le cours. La dernière fois qui était un peu compliqué, je vais essayer de simplifier un peu plus cette semaine-ci pour ne pas vous imposer des cours qui soient trop difficiles à suivre. Ça dépend beaucoup des parties qu'on étudie dans Saint-Thomas. Il y a des parties que j'arrive à expliquer facilement et des parties qui sont à mon avis plus compliquées à expliquer. C'est plus difficile de faire un choix dans ce qu'il faut dire et pas dire. Donc la question numéro 6, c'est un titre un peu compliqué, du mode de l'union. Quant à l'ordre dans lequel s'est réalisée l'assomption des parties de la nature humaine, c'est-à-dire comment cette union dans le Fils de l'humanité et de la divinité s'est-elle accomplie dans la deuxième personne de la Sainte Trinité. Alors je vais encore une fois simplifier au maximum, n'ayant pas l'intention de vous faire, n'ayant pas la capacité non plus, de vous faire un cours de haute théologie, c'est pas le but de la manœuvre. Article 1 de la question 6, le Fils de Dieu a-t-il assumé la chair par l'intermédiaire de l'âme? Donc, la grandeur de la puissance divine, dit saint Thomas, s'est unie à une âme rationnelle et par elle un corps humain. C'est-à-dire, Dieu s'est uni à une nature humaine. La nature humaine étant un composé d'âme et de corps, la puissance divine s'est donc unie aux deux choses. C'est-à-dire à l'âme rationnelle et en même temps au corps humain. Donc l'âme est de quelque manière cause de l'union de la chair au Fils de Dieu. C'est l'âme qui, en quelque sorte, tire le corps et pas l'inverse. En vertu de l'infinité de sa puissance, Dieu atteint immédiatement toutes choses en les causant et en les conservant. C'est donc à cela qu'il faut rattacher son existence en toutes choses, par son essence, sa présence et sa puissance. Bon, il a déjà cité cette phrase plusieurs fois, donc je vous rappelle ce que veut dire saint Thomas d'Aquin, que Dieu est maître de sa création par sa présence, parce qu'il est partout, par sa puissance, parce qu'il peut tout, par son essence, parce qu'il est cause de tout. Et ceci est valable partout, et surtout dans la création, bien sûr, de la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque je vous rappelle que la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ est quelque chose de créé. Dieu n'a pas toujours existé comme homme. Il a toujours existé comme Dieu, mais pas comme homme. Alors, encore une fois, je passe sur les choses secondaires. Donc, le Fils de Dieu, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, a assumé la chair, le corps humain, par le moyen de l'âme. Donc, l'âme est susceptible d'être assumée sous le rapport de la convenance uniquement parce qu'elle est capable de Dieu et faite à son image. Donc n'oublions pas, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, que l'homme a été créé à l'image de Dieu par l'âme, pas par son corps. Ce n'est pas par le corps qu'on est créé à l'image de Dieu. Dieu étant un pur esprit, il ne peut pas avoir créé l'homme à son image par le corps, mais uniquement par l'âme. L'intelligence, pourquoi? Parce que l'intelligence est toutes les parties de l'âme, la plus haute, la plus digne et la plus semblable à Dieu. Donc le Verbe de Dieu s'est uni à la chair par l'intermédiaire de l'intelligence. L'intelligence est en effet la partie la plus pure de l'âme, or Dieu est pure intelligence. Pourquoi? Parce que l'objet formel de l'intelligence, rappelez-vous, c'est le vrai. Hein? Alors, saint Thomas répond à une objection à propos des anges. Donc, la question est un peu compliquée, mais il dit une chose intéressante dans la réponse à l'objection, je vous la cite. Ce n'est pas par défaut de dignité que l'esprit angélique est inapte à l'assomption, parce que sa faute est irréparable. C'est-à-dire, Dieu a pu s'unir à l'homme pour rattraper le péché de l'homme, mais n'a pas pu s'unir à l'ange, parce que la faute de l'ange est irrattrapable. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, je vous ai déjà expliqué, l'ange comprend les choses par intuition, et donc place sa volonté dans la chose qu'il a choisie. Donc Lucifer, si vous voulez, au paradis, ne regrette pas son péché d'orgueil, son péché de révolte contre Dieu. Il ne peut pas le regretter parce qu'il en est incapable métaphysiquement parlant. Adam et Ève, au contraire, ont regretté leur péché et donc ont été pardonnés par notre Seigneur. Dieu ne peut pas pardonner à un pécheur qui ne se repent pas de son péché, ce n'est pas possible. Donc Dieu ne peut pas pardonner à un ange qui est incapable de se repentir. Donc l'intelligence n'a pas été unie au Dieu Verbe, comme certains le prétendent mensongèrement, avant l'incarnation, qui s'est faite de la Vierge, et à partir de laquelle le Fils de Dieu s'est appelé le Christ. Donc cette union de l'humanité et la divinité ne s'est faite qu'à partir de l'incarnation, et pas avant, bien entendu, c'est du bon sens élémentaire. Donc la chair du Christ n'était pas d'une nature différente de la nôtre, son âme n'était pas vivifiée par un principe différent de celui des autres hommes. Il était vraiment homme comme nous. Donc l'âme du Christ surpasse les nôtres, non par un genre différent, mais par l'élévation de sa puissance. En effet, elle est du même genre que les nôtres, mais elle dépasse même les anges en plénitude de grâce et de vérité. Pourquoi ? Parce que l'âme du Christ n'est pas marquée par le péché originel. En plus, cette âme est unie à la divinité, contrairement à notre âme, qui d'une part marquée par le péché originel et qui d'autre part n'est pas unie à la divinité. Donc c'est en même temps que la chair est devenue la chair du Verbe de Dieu et la chair animée d'une âme rationnelle et intellectuelle. Tout s'est fait en même temps. Quand notre Seigneur Jésus-Christ est passé par le mystère de l'incarnation, si vous voulez, dans ce cas-là, immédiatement en lui, il y a eu l'union dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, du Christ, il y a l'union entre l'âme et le corps, d'une part, avec la divinité, d'autre part. La différence qu'il y a entre notre génération et celle du Christ, c'est que notre chair est conçue avant d'être animée, tandis qu'il n'en est pas ainsi du Christ. De même, nous sommes conçus à partir d'une semence virile, non pas le Christ. Nous pouvons en dire autant au sujet de la production de l'âme, ce serait admettre entre celle du Christ et la nôtre une diversité de nature. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé dans le sein, en tant qu'homme, dans le sein de notre Sainte Vierge Marie, sans l'intervention d'un homme, contrairement à notre conception à nous. Alors, on continue d'aller sur les parties essentielles. Je passe encore une fois sur certaines parties qui me semblent relativement secondaires par rapport à ce qu'on étudie actuellement. Hein. Donc, à l'article 6, saint Thomas se pose la question de savoir si la nature humaine a été assumée par l'intermédiaire de la grâce. Bon. La grâce, c'est un accident de l'âme, c'est quelque chose qui est surajouté. Or, l'union du Verbe à la nature humaine s'est faite hypostatiquement et non par accident. Donc la nature humaine n'a pas été assumée par l'intermédiaire de la grâce. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans le Christ, on discerne la grâce d'union et la grâce habituelle, qui est la grâce sanctifiante. Donc que nous parlions de l'une ou de l'autre, on ne peut faire de la grâce un intermédiaire dans l'assomption de la nature humaine. Alors, c'est des choses un petit peu relativement secondaires par rapport au niveau de secours. Hein. Donc l'âme parfait le corps substantiellement, dans le sens qu'il ne peut pas y avoir de nature humaine sans la présence de l'âme, qui anime le corps, l'âme étant la forme du corps, la grâce au contraire parfait l'âme de façon accidentelle. Alors on continue d'avancer. Alors, j'ai de ne pas sauter les choses importantes, par contre de sauter les choses secondaires. Alors, une question qui est importante, c'est celle qui est à la question 7. Question 7 de Tertia Pars, c'est l'article 1, la question 7. Donc, vous avez, j'ai oublié de vous le dire au début de ce cours, vous avez les résumés de cet enseignement de saint Thomas d'Aquin dans le Polycopier à la page 139. Donc, j'ai pas tout mis, mais vous pouvez vous y
y aller, si vous voulez, pour avoir les textes sous les yeux. Alors, l'article 1 de la question 7 est important. Donc, saint Thomas se pose la question de savoir s'il y a dans l'âme du Christ la grâce sanctifiante, donc la grâce habituelle. La grâce habituelle. Donc, il répond évidemment positivement en disant que dans le Christ, il y avait la grâce habituelle. Il est nécessaire d'admettre la grâce habituelle dans le Christ pour trois motifs. Bon, d'une part, à cause de l'union de son âme avec le Verbe de Dieu. L'âme du Christ était unie à la divinité, de même que le corps du Christ était uni à la divinité. Plus l'être qui reçoit est proche de la cause qui l'influence, plus il participe de celui-ci. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ étant uni, étant à la fois Dieu et homme, donc l'âme du Christ, partie du corps du Christ, donc partie de la nature humaine du Christ, était évidemment en union avec le Verbe divin. Deuxièmement, il faut voir aussi la noblesse de cette âme. Elle exigeait que celle-ci pût atteindre Dieu plus près par ses activités de connaissance et d'amour, ce qui exige que la nature raisonnable soit élevée par la grâce. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa nature humaine, a été créé avec, évidemment, une grâce extraordinaire, puisqu'il est Dieu. Bon. Et ceci aussi s'explique, dit saint Thomas, à cause de la relation du Christ lui-même avec le genre humain. Parce que, dit-il, le Christ, en tant qu'homme, est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est pourquoi il fallait posséder aussi une grâce rejaillissant sur les autres. C'est une grâce qu'on appelle une grâce capitale, c'est-à-dire c'est la tête de la grâce. C'est comme une source, si vous imaginez la source qui va faire rejaillir l'eau après sur tout ce qui est sous la source. De la même façon, la grâce du bon Dieu, la grâce qui existe en notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme, cette grâce habituelle donc, va rejaillir après sur tous les hommes. Donc je répète, trois raisons de la présence de la grâce habituelle dans le Christ. D'une part, l'union de son âme avec le Verbe de Dieu. Deuxièmement, à cause de la noblesse de cette âme. Et troisièmement, à cause de la relation du Christ avec le genre humain. Donc, n'oublions pas que l'âme du Christ n'est pas divine par essence. Pourquoi ? Il faut qu'elle devienne divine par participation, c'est-à-dire selon la grâce. L'âme du Christ est une grâce, est une l'âme est quelque chose qui relève de la nature humaine, pas de la nature divine. Attention, pas tout mélanger. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, est Dieu et homme. Donc il a tout du Dieu et tout de l'homme. Et étant homme, encore une fois, il a une âme et un corps. Et la grâce sanctifiante, la grâce habituelle, va agir sur l'âme du Christ. Donc, en tant que telle, la grâce, si vous voulez, étant quelque chose de créé, ne va pas agir sur Dieu, parce que Dieu est déjà, ayant la divinité, est tout par lui-même. Il n'y a pas besoin de la grâce, si vous voulez. Je vais expliquer comme ça. Alors, avançons un petit peu dans les explications que donne Saint Thomas d'Aquin. Donc, saint Thomas explique qu'il y avait dans le Christ une plénitude de vertu. C'est l'article 2 de la question 7. Y a-t-il chez le Christ des vertus ? Il y avait la plénitude des vertus. Pensez bien que si notre Sainte Vierge Marie est pleine de grâce, notre Seigneur Jésus-Christ est encore plus. Non. De même que la grâce se rapporte à l'essence de l'âme, ainsi la vertu se rapporte à ses puissances. Donc la grâce du Christ étant très parfaite, les vertus qui en procèdent devait donc parfaire également toutes les puissances de son âme et leurs actes. D'où il suit que le Christ a possédé toutes les vertus et de façon parfaite. Évidemment, puisqu'il est Dieu. Et Dieu est homme à la fois. Et donc, n'oublions pas que le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ étaient unis à la divinité. Alors, article 7, question 7, article 3, le Christ a-t-il la foi ? Alors, si on pose cette question à la plupart des catholiques, je pense que la plupart des catholiques vont dire, bien sûr qu'il avait la foi. Mais non, il ne l'avait pas. Notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas la foi, tout simplement parce qu'il n'avait pas besoin. Nous, on doit avoir la foi. Pourquoi ? Parce que là, on ne voit pas notre Seigneur Jésus-Christ. On a la foi en quelque chose qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'au ciel, il n'y a plus besoin de foi. La vertu théologale de foi n'existe pas au ciel, puisqu'on verra notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on n'a plus de foi. On n'a plus besoin ni de foi, ni d'espérance. Par contre, il y aura la charité, qui elle progresse tout le temps. Donc, là, la foi, dit saint Thomas, dit d'abord, le Christ ne pouvait pas avoir la foi, parce que la foi a pour objet la réalité divine en tant qu'elle n'est pas vue. Or, le Christ, dès le premier instant de sa conception, a vu l'essence divine. Il a l'union hypostatique. Et il n'a donc pas pu avoir la foi. Il n'a pas besoin de la foi. Il ne l'avait pas. Alors, on continue d'avancer dans ces questions-là. Encore une fois, je ne m'arrête pas sur les détails. J'essaie d'aller à l'essentiel. Donc, évidemment, l'article qui suit, c'est la même question par rapport à l'espérance. Le Christ avait-il l'espérance? La réponse est la même. Bon. Il apparaît donc que l'espérance, comme la foi, ayant pour objet ce qu'on ne voit pas, le Christ n'ayant pas eu la foi, ne pouvait pas avoir non plus l'espérance. Bon. Il est la charité incarnée, Deus Caritas Est, mais il n'a ni la foi, ni l'espérance, parce qu'il n'a besoin ni de l'un, ni de l'autre. Donc la vertu d'espérance, dit saint Thomas, se porte sur les secours divins par lesquels il nous est possible de parvenir jusqu'à Dieu. Il en va de même pour la foi, qui, sur la parole de Dieu, adhère non pas seulement aux réalités divines, mais encore à toutes les autres réalités divinement révélées. Le Christ, donc, dès le premier instant de sa conception, a joui pleinement de la possession de Dieu. Il ne pouvait donc pas avoir la vertu d'espérance. Parce que la vertu d'espérance, c'est quoi? C'est espérer en quelque chose qu'on n'a pas. On espère voir Dieu, parce qu'on ne voit pas Dieu actuellement. On espère être en notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on ne peut pas le toucher actuellement. Mais notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, n'avait besoin donc ni de foi, ni d'espérance. L'espérance, vertu théologale, n'a pas pour objet la béatitude du corps, mais bien celle de l'âme qui consiste dans la jouissance de Dieu. Or, Dieu avait déjà cette jouissance de lui-même, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est parfaitement Dieu. L'édification de l'Église, par la conversion des fidèles, ne contribue pas à la perfection personnelle du Christ, ce sont au contraire les fidèles qu'il fait participer à sa propre perfection. Alors, toute une série de questions qui semblent pour nous un peu superficielles, mais qui pourtant sont importantes. Article 5 de la question 7, toujours dans la tertia pars, ce qui a-t-il possédé les dons du Saint-Esprit? Donc, les dons, vous savez que 4 de ces dons, sur ces 7 dons du Saint-Esprit appartiennent à la vie contemplative, la sagesse, la science, l'intelligence, le conseil, qui se rattache à la prudence. Et Dieu avait, de façon plénière, l'intégralité de ces 7 dons. Les dons sont des perfections apportées aux puissances de l'âme pour les rendre aptes à être mues par le Saint-Esprit. Il est donc évident que les dons se trouvaient dans le Christ sous un mode très excellent. Il n'avait pas la foi ni l'espérance, mais par contre il avait les dons du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les vertus doivent être aidées par les dons qui viennent parfaire les puissances de l'âme et leur permettre d'être mues par le Saint-Esprit. Donc, puisque Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, avait toutes les vertus, on l'a déjà vu, il avait donc toutes les dons du Saint-Esprit qui viennent parfaire les puissances de l'âme. Et aussi parce que les vertus sont aidées par les dons. Donc, s'il a les vertus, il a les dons. Alors, saint Thomas, article 6, se pose la question de savoir si le Christ a eu le don de crainte. Et il va citer Isaïe, « L'esprit de la crainte du Seigneur le comblera de sa plénitude. » Donc, cette affectueuse révérence envers Dieu, le Christ comme homme, l'a possédé plus pleinement que tous les autres. C'est pourquoi l'Écriture lui attribue la plénitude du don de crainte. Donc, Dieu en tant qu'homme, notre Seigneur, le Christ en tant qu'homme, avait le don de crainte de Dieu. Donc l'objet essentiel du don de crainte n'est pas le mal envisagé par la passion de crainte, mais la supériorité du bien divin dont la puissance peut infliger du mal. Donc parce que le Christ avait déjà le bien parfait de la béatitude, il avait la vision béatifique, rappelez-vous, on ne lui attribue pas la vertu d'espérance, mais on lui attribue par contre le don de crainte. La charité parfaite bannit la crainte servile, qui envisage principalement le châtiment. Il est évident que la crainte servile n'existait pas chez notre Seigneur Jésus-Christ. Elle n'existait pas chez le Christ. Alors, saint Thomas continue dans les détails, pour aller aussi profond qu'il le peut, avec l'article 7, le Christ a-t-il eu des charismes? Donc, saint Thomas répond en disant que dans le Christ, qui est la tête de l'Église, se trouvent toutes les grâces. Il est donc manifeste que le Christ a dû, comme premier principal docteur de la foi, posséder excellemment tous les charismes. Donc les carrés, je vous le rappelle, sont ordonnés à certains actes extérieurs qui manifestent la vérité de la foi, comme les miracles ou les autres choses semblables. La grâce sanctifiante, au contraire, elle est ordonnée aux actes méritoires intérieurs, surtout, ou extérieurs. Mais les charismes, uniquement aux actes extérieurs. Donc les autres saints, qui ne sont pas entre les mains de Dieu des instruments conjoints, mais des instruments séparés, ne reçoivent que partiellement le pouvoir de produire de tels actes, par exemple les miracles. C'est pourquoi, à la différence du Christ, il ne possède pas tous les charismes. Les saints avaient certains charismes, mais Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme-Dieu, avait tous les charismes. Donc, il n'avait pas la foi. Pourquoi ? Parce que la foi concerne ce qu'on ne voit pas. Notre Seigneur Jésus-Christ n'en avait pas besoin. Il n'avait pas l'espérance, parce que l'espérance s'occupe de ce qu'on ne possède pas. Notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, n'avait pas besoin, je l'ai déjà expliqué, ni de la foi, ni de l'espérance. Mais il avait les charismes, il avait les dons du Saint-Esprit. Alors, saint Thomas se pose la question, à l'article 8 de la question 7, de savoir si le Christ avait le charisme de la prophétie. Alors, il va répondre en disant que un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ avait le charisme de la prophétie. Pourquoi ? Parce que, parce qu'il savait tout. En tant que Dieu, homme-Dieu, il savait le futur. Alors, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est ça. Donc, il répète la même chose. La foi a pour objet ce qui n'est pas vu par celui qui croit. De même, l'espérance a pour objet ce qui n'est pas possédé par celui qui espère. Donc, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, n'avait ni foi ni espérance. Article 9. A-t-il eu la plénitude de la grâce ? Donc là, c'est absolument évident. La réponse est positive. Le Christ a eu la plénitude de la grâce. Nous l'avons vu ici de Saint Jean, plein de grâce et de vérité. Il a eu cette plénitude de grâce au plus haut degré où il soit possible de la posséder. Bien plus encore que la très sainte Vierge Marie, qui était pleine de grâce. La sainte Marie, gratia plena, pleine de grâce. Donc pourquoi ? Parce que l'âme de Christ était proche de la cause de la grâce. La cause, cette union hypostatique qui unissait la nature humaine avec la nature divine. Deuxièmement, cela se rapporte à l'effet que l'âme du Christ avait mission de produire, car il lui fallait recevoir la grâce de manière à pouvoir, de quelque façon, la diffuser sur les autres, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, à savoir qu'il était comme la source, à travers laquelle va passer l'eau de la grâce, qui va après alimenter le monde entier. Donc, le Christ a encore possédé la grâce en plénitude, car il l'a possédée selon tous ses effets et toutes ses opérations. Donc, bien plus encore que la Sainte Vierge n'avait la plénitude de grâce. La grâce de Christ comportait donc cette plénitude, qui la faisait s'épanouir selon toutes ses virtualités, vertus, dons et autres effets du même genre. Alors la foi et l'espérance, il répète tout le temps les mêmes choses, et c'est une bonne chose, c'est comme ça qu'on apprend. La foi et l'espérance sont des effets de la grâce qui impliquent une certaine déficience chez leur sujet. Car la foi a pour objet ce qu'on ne voit pas, et l'espérance que l'on ne possède pas. Oh, il peut y avoir des déficiences chez notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est parfait. En tant qu'homme, en tant que Dieu aussi. Donc il n'y avait en lui ni foi, ni espérance. Alors, il continue dans ce domaine de la plénitude de la grâce, se posant la question de savoir si la plénitude de grâce est propre au Fils de Dieu, au Christ. Une telle filiation est propre au Christ. La plénitude de grâce et de vérité doit donc aussi lui appartenir en propre. La plénitude de grâce n'appartient pas à la très sainte Vierge Marie en propre, mais elle appartient en propre à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est uni par l'union apostatique avec quelle divinité. Donc on possède la grâce à la fois la manière la plus excellente dont il est possible de la posséder et selon aussi toute la puissance effective du rayonnement. Donc une plénitude de grâce est propre au Christ. Donc dans la plénitude, cette plénitude, dit saint Thomas, consiste en ce qu'il reçoit la grâce dans toute la mesure réclamée par sa condition. Et cette plénitude de grâce va être ensuite communiquée par lui aux autres hommes qui vont participer à la grâce du Christ. Alors, ensuite, il y a une objection importante, intéressante, c'est l'article, la première argument, le premier argument, le première objection qui dit ceci: ce qui appartient en propre à quelqu'un ne convient qu'à lui seul, mais la plénitude de la grâce est attribuée à d'autres qu'au Christ. C'est ainsi que l'ange salue la Vierge en ces termes: je vous salue, pleine de grâce. Il est dit aussi dans les Actes des Apôtres, au chapitre 6, qu'Étienne était plein de grâce et de force. Donc, l'objection dit, la plénitude de grâce n'appartient pas proprement au Christ. Réponse de saint Thomas: la bienheureuse Vierge Marie est appelée pleine de grâce, non en raison de la grâce elle-même, qu'elle n'a pas eue à son plus haut degré, et dont elle n'a pas mis en œuvre tous les effets, mais parce qu'elle avait reçu la grâce qui devait suffire à cet état de mère de Dieu pour lequel Dieu l'avait choisie. Notre Sainte Vierge Marie était pleine de grâce vu sa condition. Elle n'était pas pleine de grâce par rapport à la grâce elle-même. Donc la plénitude de grâce en notre Seigneur Jésus-Christ, dans le Christ, était largement supérieure à la plénitude de grâce en notre Sainte Vierge Marie. Parmi ces plénitudes, il y a des degrés donc qui tiennent à ce qu'un saint a été prédestiné par Dieu à un état plus ou moins éminent. Donc il y a des différences de quantité de grâce selon les différents saints. Mais Dieu étant la source même, donc la plénitude de grâce la plus forte qu'on puisse avoir, c'est celle qui sera dans le Christ lui-même. Il reprend ceci en disant, en se posant la question de savoir si la grâce du Christ est infinie. Alors, on pourrait être tenté de répondre oui. Quand on ne réfléchit pas, on dit oui, la grâce du Christ est infinie. Mais attention, la grâce est quelque chose de créé. Or, tout ce qui est créé est fini. Donc, la grâce du Christ n'est pas infinie. Ce qu'on appelle un syllogisme. Je répète, la grâce est quelque chose de créé dans l'âme. Tout ce qui est créé est fini. Donc la grâce du Christ n'est pas infinie. On peut dire la même chose sur l'humanité. L'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ est quelque chose de créé. Or, tout ce qui est créé est fini, donc la grâce, l'humanité du Christ est finie. D'accord ? C'est la même chose pour l'âme, puisque l'âme est aussi créée. Donc, il faut distinguer, pour répondre à l'objection, donc de savoir si la grâce du Christ est infinie ou non, saint Thomas répond en disant qu'il faut distinguer une double grâce dans le Christ. D'une part, la grâce d'union, qui consiste dans l'union hypostatique, dans l'union personnelle au Fils de Dieu, accordée gratuitement à la nature humaine. Il est évident que cette grâce est infinie, comme la personne du Verbe elle-même, parce que c'est l'union directe avec Dieu lui-même. Mais par contre, il y a aussi une grâce habituelle. Bon. Elle est nécessairement un être fini, car elle se trouve dans l'âme du Christ comme dans son sujet. Or, l'âme du Christ étant une créature, a une capacité finie. Puisque l'être de la grâce ne peut dépasser celui du sujet, il ne peut pas non plus infini. Donc, ce qu'il dit, c'est que la grâce habituelle étant dans l'âme du Christ, laquelle est une créature finie, une créature finie ne peut pas contenir en soi quelque chose d'infini. Donc, puisque l'être de la grâce ne peut dépasser celui de son sujet, la grâce habituelle n'est pas infinie en notre Seigneur Jésus-Christ. Par contre, sa grâce d'union est infinie. Je veux dire, ce sont des discussions d'apothicaires, mais elles sont importantes en théologie. Donc, nos grâces, les grâces que nous recevons, elles sont évidemment encore plus finies. Saint Thomas explique de cette façon, en disant que la grâce d'un autre homme, autre que le Christ, est envers la grâce du Christ comme une puissance particulière envers une puissance universelle. Alors, autre question intéressante, article intéressant, l'article 12, je donne uniquement la moelle de l'article: la grâce du Christ a-t-elle pu s'accroître? Saint Thomas répond en disant, ici Saint Jean: nous l'avons vu comme le Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. C'est ce qu'on dit à la fin de l'évangile, à la fin de la messe, l'évangile de Saint Jean, le début de l'évangile de Saint Jean. On ne peut pas concevoir une grâce plus grande que celle dont le Christ fut rempli. Il y a une grâce dans la plénitude, donc on ne peut pas en avoir plus. Alors, voilà l'explication de saint Thomas, c'est magnifique. La fin de la grâce, c'est l'union de la nature rationnelle à Dieu. Par la grâce c'est en quelque sorte un pont entre la créature et la divinité. Donc la fin de la grâce, c'est l'union de la nature rationnelle à Dieu. Et il n'est pas possible Je répète, la fin de la grâce, c'est l'union de la nature rationnelle à Dieu. Et il n'est pas possible de réaliser, ni même de concevoir une union plus intime que celle qui se fait dans la personne. C'est pourquoi la grâce atteint son degré suprême dans le Christ, et il est manifeste qu'en tant que grâce, elle n'a pas pu augmenter. Personne ne peut avoir donc une grâce égale ou supérieure à celle du Christ. Au contraire, chez les hommes, c'est différent. Pourquoi ? Parce que les hommes sont uniquement pèlerins. Son viateur, la grâce peut grandir tant du côté de sa forme, qui n'atteint pas en eux son degré suprême, que du côté de son objet, son sujet, pardon, qui n'est pas encore parvenu à terme. Donc la grâce peut grandir en Dieu, la grâce peut remplir, décidément, la grâce peut grandir, en nous, mais elle n'a pas pu s'accroître dans le Christ. Parce que justement, il est plein de grâce et de vérité. Alors, il y a une autre précision qui est importante. Le Christ a progressé en sagesse et en grâce, aussi bien qu'en âge, car à mesure qu'il avançait en âge, il produisait des œuvres plus parfaites. Donc, il montrait qu'il était homme véritable, aussi bien à l'égard de Dieu qu'à l'égard des hommes. Donc, de ce côté-là, il y a eu une progression, si vous voulez, c'est une progression en notre Seigneur Jésus-Christ. Il est plein de grâce et de vérité, mais la manifestation de cette plénitude de grâce va changer avec l'âge. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était petit, enfant, n'a pas manifesté, si vous voulez, sa plénitude de grâce de la même manière qu'il va la manifester quand il sera adulte au pied de la croix, par exemple. Article 13. De la question 7, quel rapport la grâce habituelle du Christ a-t-elle avec l'union hypostatique ? Bon. L'union de la nature humaine à la personne divine précède la grâce habituelle dans le Christ. Alors, on va un petit peu... Je ne vais pas donner tous les détails métaphysiques qui sont un peu compliqués, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la nature humaine, la grâce du Christ vient de son union de la nature humaine à la personne divine, à la nature divine. Donc, l'union de cette nature humaine et de la nature divine dans la personne du Christ, cette union qu'on appelle la grâce d'union, précède la grâce habituelle dans le Christ, qui va arriver donc après. C'est ce que dit saint Thomas. Bon, la même grâce, dit saint Thomas, qui rend chrétien un homme quelconque, la grâce du baptême, fait aussi qu'un homme est devenu le Christ, car ces deux effets proviennent sans aucun mérite de la bonté toute gratuite de Dieu pour nous. Donc la grâce d'union, union postatique, est largement supérieure à la grâce habituelle. La grâce d'union n'est pas dans le genre de la grâce habituelle, elle est au-dessus de tout genre, comme la personne divine elle-même. Donc, la grâce de l'union hypostatique est évidemment au-dessus de la grâce habituelle dans le Christ. Alors, nous passons à la question 8, sur la grâce du Christ comme tête de l'Église. Alors, j'espère que je suis un petit peu moins compliqué que lors du dernier cours. Je m'excuse si les cours ne sont pas toujours parfaits, mais je fais ce que je peux. Et moi, je ne suis pas le Saint-Esprit et je ne suis pas saint Thomas d'Aquin, malheureusement. Alors, question 8, donc la grâce du Christ comme tête de l'Église. Ça, c'est très intéressant. Alors, voyons l'article 1, le Christ est-il la tête de l'Église ? Certains nous disent, mais la tête de l'Église, c'est le pape. Non, le pape n'est pas la tête de l'Église. La tête de l'Église, c'est le Saint-Esprit, c'est le Christ. D'accord ? Le pape est vicaire du Christ, pas pareil. Donc, on appelle, dit saint Thomas, le Christ tête de l'Église, par analogie avec la tête humaine. Bon. Donc, pourquoi ? Parce qu'en raison de sa proximité avec Dieu, la grâce du Christ est plus élevée et donc la première. Donc, sous le rapport de la perfection, le Christ possède la plénitude de toutes les grâces. Donc, on a déjà vu ça, ce qui explique que le Christ est tête de l'Église, à cause de cette plénitude de grâce. Pour ce qui est de la puissance, le Christ peut communiquer la grâce à tous les membres de l'Église. Il apparaît donc avec évidence que l'on peut à bon droit donner au Christ le titre de tête de l'Église. Il est l'âme de l'Église, en quelque sorte. En tant qu'homme, cela lui convient aussi comme instrument, parce que son humanité étant l'instrument de sa divinité. Ainsi, ses actions, par la puissance de sa divinité, nous donnaient le salut, en gozant en nous la grâce, à la fois par mérite, par une certaine efficience. Donc, l'humanité, si vous voulez, est utilisée par notre Seigneur Jésus-Christ comme un instrument. Et de même, on arrive, nous, à la divinité par l'instrumentalité de la nature humaine du Christ. Par exemple, on peut utiliser la passion de notre Seigneur Jésus-Christ dans son corps, parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas pu souffrir dans son âme. On peut utiliser la passion dans le corps du Christ comme un moyen d'augmenter en nous la foi en la divinité du Christ. Et on part de l'humanité, on voit l'homme souffrant, et ensuite on réalise que cet homme souffrant est uni par l'union apostatique avec la divinité. Donc la tête, dit saint Thomas, a une supériorité manifeste sur les autres membres extérieurs. Le cœur, lui, exerce une influence cachée. C'est pourquoi on compare au cœur le Saint-Esprit, qui vivifie et unifie invisiblement l'Église, et on compare à la tête le Christ dans sa nature visible, parce que comme homme, il l'emporte sur tous les hommes. Ça, c'est une façon d'expliquer. Cependant, on aurait le droit de dire, ce ne serait pas du tout une hérésie. On pourrait dire également que le Christ est cœur de l'Église ou que le Saint-Esprit est tête de l'Église. Les deux choses sont acceptables. Article 2 de la question 8. Le Christ est-il la tête des hommes pour leur corps ou seulement pour leurs âmes? Donc il cite saint Paul aux Philippiens. Il transformera notre corps misérable en le rendant semblable à son corps de gloire. Donc, l'humanité du Christ, aussi bien son âme que son corps, exerce une influence sur les hommes, sur leurs âmes comme sur leur corps. Premièrement sur leurs âmes, il est vrai, et sur leur corps secondairement. Donc l'homme est créé à l'image de Dieu, rappelez-vous, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, par l'âme. Donc c'est d'abord l'âme du Christ qui va être sous la domination du Christ. Je veux dire, c'est l'âme des hommes qui vont, les âmes des hommes qui vont être sous la domination du Christ. Donc le Christ est tête des hommes d'abord par leurs âmes. Il est aussi chef de notre nature humaine, donc il n'est pas seulement chef de nos âmes, mais aussi de nos corps, bien entendu. Donc nous avons le devoir de servir notre Seigneur Jésus-Christ, et avec notre âme et avec notre corps, les deux. Article 3, un article très intéressant sur lequel je puisse insister. Le Christ est-il la tête de tous les hommes? Alors voilà ce que dit saint Thomas. Il répond positivement. Le Christ est la tête de tous les hommes. Ensuite, il va expliquer. Des phrases splendides. Il faut donc regarder comme membres du corps mystique, non seulement ceux qui le sont en acte, mais aussi ceux qui le sont en puissance. Parmi ces derniers, les uns le sont en puissance sans jamais le devenir en acte, les autres le deviennent en acte à un moment donné selon 3 degrés, par la foi, par la charité en cette vie, et enfin par la béatitude de la vie céleste. Saint Thomas va expliquer donc. Le corps mystique, l'Église, c'est le corps mystique du Christ. Bon. Il y a des gens qui ne sont pas encore membres de ce corps mystique, on devient membre du corps mystique, strictement parlant, par le baptême. Il y en a qui sont en puissance, un catéchumène par exemple. Il n'est pas encore baptisé, mais il est en puissance de devenir baptisé. Donc saint Thomas va détailler ensuite. Le Christ est la tête de tous les hommes à divers degrés. D'abord et avant tout, il est à la tête de tous ceux qui lui sont unis en acte par la gloire. Ça c'est qui ça? Les gens qui sont unis en acte par la gloire au Christ, c'est les élus du ciel. Bon. Deuxièmement, il est à la tête de tous ceux qui sont unis en acte par la charité. Il y a tous ceux qui sont en état de grâce. Les gens qui sont le plus unis à notre Seigneur Jésus-Christ sont évidemment les élus du ciel. Pourquoi? Eux, ils sont déjà dans la gloire du ciel, ils ne peuvent plus perdre cette union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il y a ceux qui sont unis en acte par la charité. La charité, c'est quoi? C'est la grâce sanctifiante. Donc, tous ceux qui sont en état de grâce, ici-bas, sur la terre, sont unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette union est moins forte que l'union de gloire. Pourquoi? Parce que l'union de gloire ne peut pas être perdue. Par contre, l'union par la charité peut être perdue par le péché, malheureusement. Enfin, il y a ceux, troisièmement, qui sont unis par la foi. Vous avez des gens qui vivent dans le péché mortel jusqu'au cou, mais quoi la foi? C'est le drame. Un catholique pratiquant qui vit dans le péché mortel. Il y en a malheureusement qui sont comme ça. Ils vivent par exemple en concubinage, mais ils ont la foi, ils savent très bien qu'ils vivent dans le péché, mais ils ont la foi quand même. Donc, est-ce qu'ils ont une union avec notre Seigneur Jésus-Christ par cette foi? Oui. Évidemment, cette union est moins forte que l'union par la charité, et encore moins forte, évidemment, que l'union dans la gloire. Alors, quatrièmement, donc, d'abord la gloire, puis l'union par la charité, puis l'union par la foi, quatrième degré d'union, ceux qui sont unis au Christ en puissance, mais qui dans les desseins de la prédestination divine le seront un jour en acte. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore membres de cette Église, de l'Église catholique du Christ, mais qui le seront un jour. Et puis malheureusement, il y a un cinquième degré d'union avec notre Seigneur Jésus-Christ, hein, d'union avec la tête de l'Église qui est le Christ. Ce cinquième degré d'union, c'est le degré de ceux qui ne lui sont unis en puissance, qui ne seront jamais en acte. Comme les hommes qui vivent dans ce monde, qui ne seront pas prédestinés. C'est-à-dire ceux-ci, quand ils quittent cette vie, cessent entièrement d'être membres du Christ, car ils ne sont plus en puissance à lui être unis. Dans la pratique, ce sont ceux qui malheureusement tombent en enfer. Donc les gens qui tombent en enfer perdent toute possibilité d'être unis à la tête du Christ, à la tête qu'est le Christ. Donc je répète, le Christ est la tête de tous les hommes à divers degrés. Premier degré, le plus élevé, par la gloire pour les élus du ciel. Deuxième degré, par la charité pour ceux ici-bas qui vivent dans l'état de grâce. Troisièmement, par ceux qui ont la foi catholique sans avoir la charité. Par exemple, les baptisés adultes qui vivent dans le péché mortel, qui ne pratiquent pas, mais qui ont la foi quand même, eh bien, ils ont une union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas l'union de la grâce sanctifiante. Enfin, ceux qui n'ont pas actuellement cette union, mais qui, dans les desseins de la prédestination divine, auront un jour cette union en acte. Et enfin, malheureusement, notre Seigneur Jésus-Christ a aussi des créatures rationnelles, des hommes, qui lui sont unis en puissance, mais qui ne seront jamais unis à lui en acte. Hein, parce que, malheureusement, ils ne seront pas sauvés. Alors ici, il y a des passages très importants pour nous dans la situation actuelle de l'Église. Les infidèles, c'est les païens. Les infidèles, bien qu'ils ne soient pas en acte membres de l'Église, lui appartiennent cependant en puissance. Pourquoi ? Parce que les infidèles ont été créés par Dieu. Un musulman, par exemple. Est-ce qu'un musulman est un enfant de Dieu ? Non, puisque pour être enfant de Dieu, il faut être baptisé. Un musulman en étant baptisé ne peut pas être enfant de Dieu. C'est impossible. Bon. Mais il appartient à Dieu en puissance. Pourquoi ? Parce que ce musulman peut un jour être baptisé, trouver la véritable foi et devenir enfant de Dieu. Donc cette puissance, dit saint Thomas, a deux fondements. D'abord et comme principe la vertu du Christ qui suffit au salut de tout le genre humain. Ensuite le libre arbitre. Et Dieu respecte ce libre arbitre. Donc c'est le grand mystère, si vous voulez, notamment les plus grands mystères dans l'histoire, dans l'Église catholique, le mystère de la toute-puissance de Dieu qui respecte en même temps le libre arbitre de l'homme. Donc il y a des péchés mortels, dont sont indemnes les membres du Christ qui lui sont unis en acte par la charité. Si vous êtes dans l'état de grâce, vous n'êtes pas en état de péché mortel. On ne peut pas être à la fois en état de grâce et en état de péché mortel. Quant à ceux qui sont esclaves de tel ou tel péché, ils ne sont pas membres du Christ en acte, mais ils sont en puissance. Sauf peut-être d'une manière imparfaite par leur foi informe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, évidemment, si quelqu'un vit dans des péchés contre la foi, petit à petit, ces péchés contre la foi vont finir par éroder la foi, et au bout d'un certain temps, quelqu'un qui vit dans les péchés contre la foi à longueur de journée va finir par perdre la foi. Donc je reprends le texte. Quant à ceux qui sont esclaves de tels péchés, ils ne sont pas membres du Christ en acte, mais en puissance. Il parle des péchés mortels, bien sûr. Sauf peut-être d'une manière imparfaite par la foi informe. Car celle-ci unit au Christ de façon relative et non de cette façon absolue qui permet à l'homme d'obtenir par le Christ la vie de la grâce. Pourquoi ? Parce que la foi sans les œuvres est morte. De tels membres reçoivent du Christ l'acte vital de croire et sont semblables à un membre mort que l'homme parvient à remuer quelque peu. Donc si vous êtes en état de péché mortel, vous avez la foi catholique mais vous êtes en état de péché mortel, vous avez ce qu'on appelle une foi informe. Une foi informe est une foi à laquelle il manque quelque chose. Donc, on est semblable, dit saint Thomas, j'aime bien cette expression, ces gens qui vivent dans le péché mortel, bien qu'ayant la foi, sont semblables à un membre mort que l'homme parvient à remuer quelque peu. C'est pas tout à fait un cadavre, mais il est à moitié moribond. Voilà ce qu'il veut dire. Alors, je pense que la phrase importante dans cet article, c'est celle qui dit bien que les infidèles, donc les non-baptisés, ne peuvent pas être en acte membres de l'Église, mais ils appartiennent quand même en puissance à l'Église. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé les infidèles. Les infidèles ne sont pas des enfants de Dieu, mais sont des créatures de Dieu. Donc on peut dire que les musulmans, par exemple, sont des créatures de Dieu, parce que tous les hommes sont créés par Dieu, mais on ne peut pas dire que les musulmans sont des enfants de Dieu, parce que le baptême est nécessaire pour devenir enfant de Dieu. Article 4 de la question 8. Le Christ est-il la tête des anges ? Il va répondre positivement, oui, le Christ est donc la tête des anges, parce qu'il est manifeste que les anges et les hommes sont ordonnés à une seule fin, qui est la gloire de la béatitude divine. C'est beau comme phrase, ça. J'ai été créé pour ma fin, et ma fin, c'est la gloire de la béatitude divine. Rappelez-vous, le principe et fondement de Saint Ignace, au début des exercices Saint Ignace, l'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver son âme. Comment sauve-t-on notre âme ? On sauve notre âme en étant en état de grâce le jour de notre mort, parce que étant en état de grâce le jour de notre mort, nous allons pouvoir participer à la gloire de la béatitude divine. Donc le corps mystique de l'Église se compose donc pas seulement des hommes, mais aussi des anges. Donc le Christ n'est pas seulement la tête des hommes, mais il est aussi la tête des anges. Ici, attention, on parle des bons anges. Le Christ n'est pas la tête des anges damnés, des démons, parce que les démons se sont coupés définitivement même de la possibilité de devenir enfant de Dieu. L'Église, dans son état de voyage, c'est l'ensemble des croyants. Mais dans l'état de la patrie, c'est l'assemblée des élus qui voient Dieu. Donc ici, saint Thomas d'Aquin fait allusion, si vous voulez, aux différentes parties de l'Église. Donc l'Église du ciel, c'est l'Église triomphante. Il parle aussi de l'Église d'ici-bas, qui est l'Église militante. Il faut rajouter à cela la troisième partie de l'Église, vous le savez, l'Église du purgatoire, qui est l'Église souffrante. Avec trois parties de l'Église, l'Église militante, c'est l'Église des soldats, miles en latin, c'est le soldat, l'Église du purgatoire, c'est l'Église souffrante, et l'Église du ciel, c'est l'Église triomphante. La grâce du Christ, article 5, comme tête de l'Église, est-elle identique à sa grâce habituelle d'homme individuel ? Bon, là, je réponds assez rapidement, prenant les choses importantes dans l'article. C'est par sa grâce personnelle que le Christ est notre tête. Par conséquent, sa grâce capitale ne diffère pas de sa grâce personnelle, c'est la même. Hein ? Là, je passe assez rapidement sur cet article parce qu'à notre niveau, ça ne nous intéresse pas trop. Encore une fois, rien ne vous empêche d'aller étudier vous-même directement le texte de la Somme de saint Thomas. Donc, saint Thomas redit la même chose en réponse à la troisième objection. Il dit que la grâce d'union, grâce personnelle et grâce de chef, la grâce de la tête, sont essentiellement une seule et même grâce avec une distinction de pure raison. Article 6, appartient-il en propre au Christ d'être la tête de l'Église ? Donc le Christ seul est la tête de l'Église. Ce n'est pas le pape la tête de l'Église, c'est le Christ. Parce que le pape n'est que le vicaire du Christ. Donc le Christ est la tête de tous ceux qui appartiennent à l'Église en quelque lieu, temps ou situation qu'ils se trouvent. Les autres hommes ne sont tête que par rapport à certains lieux déterminés, comme les évêques pour leurs églises ou le pape pour l'Église universelle. Ou par rapport à un temps déterminé, comme le pape, dit-il, qui est la tête de toute l'Église durant le temps de son pontificat, et par rapport enfin à une situation déterminée, à savoir l'état de pèlerin sur la terre. Mais en tant que tel, c'est le Christ qui est la tête de l'Église. Pour tous les lieux, tous les temps, toutes les situations, quelles qu'elles soient. Le Christ est aussi tête de l'Église par sa propre puissance et sa propre autorité, tandis que les autres, le pape entre autres, ne sont tête que parce qu'ils tiennent la place du Christ. N'oublions pas que le pape est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ et que son rôle est garder le dépôt de la foi. Saint Thomas d'Aquin va citer saint Augustin. C'est très beau cette phrase. Si le Christ a donné à ses membres d'être pasteurs, parle des papes, il s'est réservé à lui seul d'être la porte. Car la porte signifie l'autorité principale, puisque c'est par elle que tous entrent dans la maison. Je répète cette phrase. Si le Christ a donné à ses membres d'être pasteurs, il s'est réservé à lui seul d'être la porte. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, parce que hors de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Il est la lumière du monde, le sel de la terre, il est la porte. L'autorité principale par laquelle nous pouvons entrer dans la maison. Et comme il n'y a qu'une seule porte, on ne peut pas rentrer dans la maison si on ne passe pas par la porte. Article 7. Le diable est-il la tête de tous les méchants? Alors, voyons un petit peu ce que dit saint Thomas. Il répond positivement. Le diable est la tête de tous les méchants. Autant la fin de notre Seigneur Jésus-Christ est de sauver les âmes, la fin du diable, le but du diable, c'est que la créature rationnelle se détourne de Dieu. C'est pourquoi, dès le commencement, le diable chercha à détourner l'homme de l'obéissance au précepte divin. Et l'aversion loin de Dieu a raison de fin quand elle est désirée par le libre arbitre. Lorsque des hommes commettant le péché sont conduits à cette fin, ils tombent sous le régime et le gouvernement du diable, et celui-ci peut être appelé, dans ce cas-là, leur tête. Donc, le diable peut être appelé, avec raison, la tête de tous les méchants. Mais strictement parlant, il est la tête des démons, des gens qui sont en enfer. Pourquoi ? Parce que ici-bas, quelqu'un peut être dans l'armée du démon, mais il peut sortir de cette armée et se remettre dans l'armée du bon Dieu par une conversion. Donc saint Thomas dit que le diable est tête de tous les méchants dans le sens qu'ils suivent son exemple. Donc tous les péchés se ressemblent quant à l'aversion loin de Dieu. Le péché, c'est se détourner de Dieu pour se convertir vers la créature. Donc les péchés diffèrent selon conversion à des biens changeants et divers. Donc le péché, c'est ça. Définition traditionnelle du péché, selon saint Thomas d'Aquin, c'est aversio ad Deo, conversio ad creaturas, se détourner de Dieu, aversion loin de Dieu, pour se convertir, se tourner vers les biens d'ici-bas, les biens changeants et divers du monde. Article 8, il y a un article intéressant sur l'antéchrist. L'antéchrist peut-il être appelé la tête de tous les méchants? Voilà, faire attention justement à ce qu'on dit. Bien sûr, la doctrine traditionnelle de l'Église ne peut pas dire des bêtises sur l'Antéchrist. C'est un traditionnaliste qui en parle beaucoup trop et qui dit un peu des bêtises sur le sujet. Donc, le diable est appelé la tête de tous les méchants dans le sens qu'il est en raison de la perfection, dit saint Thomas, en raison de la perfection de sa malice. Donc, tous les autres méchants qui l'ont précédé sont comme une image de l'Antéchrist. Un homme en état de grâce est une image de Dieu, un homme en état de péché mortel est une image du démon. Donc le diable et l'antéchrist ne se constituent pas deux têtes, mais une seule. Car l'antéchrist est appelé tête, parce qu'en lui, la malice du diable se trouve reproduite en plénitude. Donc en lui se trouve, dans le démon se trouve la tête de tous les méchants, c'est-à-dire le diable qui est le roi de tous les fils d'orgueil. Mais il ne se trouve pas par union personnelle ou par habitation intime, car il appartient à la Trinité seule de pénétrer l'intime de l'âme. Il ne se trouve que par l'effet de sa malice. C'est pour ça que le diable ne peut pas savoir ce que vous pensez strictement parlant. Il n'a pas ce pouvoir. Parce qu'il appartient à la Trinité seule de pénétrer l'intime de l'âme. Le démon ne peut pas rentrer dans l'intime de l'âme, sauf si on lui ouvre la porte toute grande. Alors il rentre. Donc tout en étant membre du diable, l'antéchrist est la tête des méchants. Donc ici on voit bien que saint Thomas fait une distinction entre l'antéchrist et le démon lui-même. On a le temps d'avancer un petit peu, il reste quelques minutes. Avec la question 9, la science du Christ. Bon. Article 1, la science, le Christ a-t-il possédé une science autre que la science divine? Bon, il est évident que le Christ étant homme et Dieu a une science à la fois divine, mais aussi une science humaine. Donc il y a eu, puisqu'il est homme, dans le Christ, une science créée qui correspond à l'humanité. Bon, pourquoi devait-il posséder cette science créée? Qui vient justement de l'humanité du Christ, d'abord pour la perfection de son âme. Parce que l'âme, en effet, est considérée en elle-même comme une puissance à connaître tous les intelligibles. Donc notre Seigneur Jésus-Christ ayant une âme parfaite d'homme, l'âme du Christ, comme toutes les âmes humaines, avait une intelligence, avait une volonté, avait un irascible, avait un concupiscible. Donc le but, l'objet de l'âme, de l'intelligence étant le vrai, donc Dieu avait une science qui venait de son humanité. Il ne convenait pas que le Fils de Dieu assume une nature humaine imparfaite, puisque par son intermédiaire, il devait conduire tout le genre humain à la perfection. Il fallait donc que l'âme du Christ, ce que je viens de vous dire, fût dotée d'une science qui constitua sa perfection propre, et par suite, d'une science distincte de la science proprement divine. Autrement, l'âme du Christ serait plus imparfaite que les âmes des autres hommes. C'est pour ça que dans le Christ, il y a deux intelligences. Il y a l'intelligence qui regarde l'homme, donc l'intelligence humaine, une intelligence qui regarde la divinité, une intelligence divine. Si l'âme du Christ n'avait pas d'intelligence, elle ne serait pas parfaite comme âme. Donc c'est en vain que le Christ aurait une âme intellectuelle s'il ne pouvait faire acte d'intelligence. Donc, il y a une science créée qui est naturelle à l'homme, à l'âme humaine, science créée que le Christ avait, et c'est celle par laquelle nous connaissons les premiers principes. D'accord ? Principe d'identité, par exemple, principe de non-contradiction, etc. Dans l'âme du Christ, la lumière de la science n'est pas effacée, mais plutôt renforcée par la lumière de la science divine. Mais la lumière de la science divine dans le Christ ne détruit pas la lumière de la science humaine. Alors, deuxième article de la question numéro 9. Le Christ a-t-il possédé la science des bienheureux ? Alors voyons ce que dit saint Thomas. Une phrase importante. L'homme est en puissance à la science des bienheureux qui consiste dans la vision de Dieu. Il se trouve ordonné à elle comme à sa fin. Créature raisonnable, en effet, il est capable de cette connaissance bienheureux parce qu'il est à l'image de Dieu. Et les hommes, ce que je vous ai déjà dit avant, les hommes sont conduits à cette fin de la béatitude par l'humanité du Christ. L'humanité du Christ est en quelque sorte l'escalier qui nous permet de monter à la connaissance bienheureuse. Donc l'homme est en puissance à la science des bienheureux. Pourquoi ? Parce que l'homme n'est pas encore bienheureux. Les bienheureux, c'est qui ? Ce sont les gens du ciel, les élus du ciel. Donc l'homme est en puissance à pouvoir un jour parvenir au ciel, mais il faut que cette puissance passe à l'acte. Mais la puissance va passer par un acte, et on va se trouver effectivement en connaissance, en présence des bienheureux au ciel, en ayant la science des bienheureux en acte, lorsqu'on sera au ciel. C'est pourquoi, dit saint Thomas, l'âme du Christ, qui fait partie de sa nature humaine, a été, par une lumière participée de la nature divine, élevée à la science bienheureuse, par laquelle Dieu est vu dans son essence. Donc, encore une fois, dans notre Seigneur Jésus-Christ, on voit très bien, donc il y a à la fois une lumière humaine et une lumière divine. Donc une double intelligence, une intelligence humaine et une intelligence divine, une volonté humaine et une volonté divine. Donc, par nature, l'âme humaine est capable de Dieu étant créée à son image. Rappelez-vous la belle définition de l'âme de Saint Pie X dans son catéchisme, substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de le posséder parce qu'elle est immortelle. Article 3. Le Christ a-t-il possédé la science infuse ? C'est terminé cette question 9. Donc, saint Thomas dit qu'il faut considérer dans le Christ, il faut placer dans le Christ plus exactement une science infuse. Donc, en dehors de la science divine et incrée, il faut attribuer au Christ une science bienheureuse qui lui fait voir le Verbe et les réalités dans le Verbe. Ça, c'est à cause de sa vision béatifique, et aussi une science infuse qui lui permet de connaître les choses dans leur nature propre par des espèces intelligibles proportionnées à l'esprit humain. Donc, en tant que Dieu, le Christ connaissait tout, en tant qu'homme, il ne connaissait pas tout, en tant qu'homme. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a dû avoir aussi une science expérimentale, ce qu'on va voir plus tard. Donc, il a une science bienheureuse, une science divine d'abord, une science incrée, puis une science bienheureuse, et aussi une science infuse. Alors là, je passe sur les passages trop philosophiques qui ne sont pas pour nous actuellement. Alors, article 4. Le Christ a-t-il possédé une science acquise ? Donc vous voyez, on part d'une science divine à une science des bienheureux, la science infuse, et maintenant, dernier degré dans la science du Christ, la science acquise. Bon. La science acquise, c'est ce qu'on appelle la science expérimentale. C'est la même chose, on peut utiliser les deux termes. Il y a donc, dit saint Thomas, dans le Christ, une science expérimentale ou une science acquise. Tout fils de Dieu qu'il était, saint Paul aux Hébreux, le Christ apprit par ses propres souffrances à obéir. C'est incroyable. Le Christ qui apprend à obéir. D'accord ? Il y a donc dans le Christ une science expérimentale, une science acquise. Rien de ce que Dieu a mis dans notre nature n'a fait défaut, la nature humaine assumée par le Verbe de Dieu. Or, il est manifeste que dans la nature humaine, Dieu a mis non seulement un intellect possible, mais aussi un intellect agent. Il faut donc admettre que dans l'âme du Christ, il y a eu, en plus de l'intellect possible, un intellect agent. Bon, je ne vais pas me lancer dans la différence philosophique entre ces choses, mais ce que je veux dire, ce que saint Thomas veut dire, c'est que, encore une fois, Dieu avait une intelligence normale. D'accord ? Une intelligence comme tous les hommes. Sinon, on ne serait pas vraiment homme. Donc, l'opération propre de l'intellect agent, il explique quand même un petit peu, l'opération propre de l'intellect agent, c'est de rendre les espèces intelligibles en acte en les abstrayant des images. Bon, on dit, c'est de l'hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, j'ai déjà expliqué en fait plusieurs fois, ça veut dire que l'homme comprend les choses par l'intermédiaire des sens. Ce qu'on appelle une connaissance par abstraction. L'homme abstrait des sensibles pour connaître l'universel dans son âme. C'est-à-dire, les sens vont donner un certain nombre de renseignements sur ce qui se passe à l'extérieur. Ces renseignements vont être passés dans le cerveau et c'est le cerveau qui va avoir une idée comme ça de ce qui se passe à l'extérieur. Si l'image qui est formée dans le cerveau correspond à la réalité à l'extérieur, on est dans le vrai. S'il y a une différence entre les deux, on est dans le faux. Donc, il y a eu, c'est la conséquence qui est pour vous la phrase importante, il y a eu chez le Christ des espèces intelligibles, c'est donc qu'il y a eu en lui une science acquise ou science expérimentale. Donc le Christ a possédé une science acquise. Il a appris des choses en tant qu'homme. Donc saint Thomas explique un peu plus après, dans la réponse aux objections, il y a une double manière d'acquérir la science, soit par découverte personnelle ou par enseignement reçu. La première manière est supérieure, l'autre n'est que secondaire. Celui-là est parfait qui comprend tout par lui-même, mais celui-là est bon qui se montre docile envers un bon maître, dit Aristote. Alors on va arrêter là. Et la question 10, que nous verrons si Dieu veut la prochaine fois, c'est la question de la science bienheureuse dans l'âme du Christ. Encore une fois, on est à des parties de la somme qui sont assez compliquées, donc j'essaye de simplifier au possible. Nous allons terminer par une prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous.